Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je suis Sandrine Ruy, sociologue à l'Université de Bordeaux. Et nous avons l'occasion et le plaisir ce soir d'accueillir deux auteurs donc dans cette belle station Ozone. Nicolas Renéi, d'abord, bonsoir, donc, qui est sociologue et vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. Et l'auteur du livre dont il va être question, qui s'intitule « Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier », qui est paru il y a quelques semaines à La Découverte. Et Gaspard Lyon, donc sociologue également. Bonsoir Gaspard, vous êtes également sociologue, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord, et donc vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre au camping, mal logement des classes populaires » qui est paru là dans l'année également aux éditions du Seuil. Alors c'est une rencontre que Ronan Hervouette, qui est un collègue ici dans la salle, a préparée avec moi et qui va se dérouler dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la librairie Mola et la faculté de sociologie de l'Université de Bordeaux. C'est la deuxième édition. Et donc on est vraiment enchantés et on remercie la librairie Mola de refaire l'aventure avec nous. Et donc le travail que nous avons préparé, la rencontre qui a été faite, c'est avec des étudiants et étudiantes de troisième année de licence de sociologie de la faculté à l'Université de Bordeaux. Donc on va avoir un temps de dialogue, un dialogue entre vous possiblement aussi, puisque les livres ont des points communs et des points d'accroche. Et l'enjeu, donc, c'est vraiment de donner deux temps, alors deux temps de deux séquences un peu différentes. Une première, donc, avec Dora de Mirtas ici présente et Wissal Bousséaden. Donc, bonsoir à toutes les deux, qui vont à la fois présenter l'enjeu de vos livres respectifs et lancer un premier temps d'échange pour une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous serons rejoints. On va alterner par Anatole Garcia et Arman Garay pour une deuxième séquence d'échange. Donc mon rôle, il est très limité. Je vais faire en sorte qu'on respecte le temps et cette quarantaine de minutes ou cette heure d'échange. Et donc, tout de suite, je vais donner la parole à Dora.
Bonjour. Je vais présenter votre livre, Monsieur Nicolas Renéi, intitulé « Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier », qui a été publié récemment en octobre aux éditions La Découverte. Votre premier ouvrage, qui date de 2005, « Les gars du coin », enquête sur une jeunesse rurale. Vous brossez le portrait des jeunes ouvriers du monde rural à partir d'une enquête ethnographique menée pendant 10 ans dans un village de Bourgogne. Dans « Jusqu'au bout », vous abordez la question du vieillissement social et physique des ouvriers retraités du pays de Montbéliard. C'est le fruit d'une enquête ethnographique qui a duré 5 années. Votre arrivée dans la région de Montbéliard avait pour but d'enquêter sur les usages sociaux de la forêt. Cependant, vous vous êtes retrouvé dans une réalité du monde ouvrier peu connue. Le livre est largement consacré à l'esprit de résistance au quotidien de Christian Courrouge et de ses camarades du groupe 89. Ils sont aujourd'hui retraités, mais toujours militants, luttant encore pour la solidarité, la justice et leurs droits. La solidarité de ce groupe s'est structurée au fil des années, non seulement dans l'usine, mais aussi au sein des syndicats, notamment la CGT, où certains continuent à militer aujourd'hui dans la section des retraités. Dans les 5 chapitres du livre, vous abordez les thématiques clés qui décrivent le monde ouvrier. Vous soulignez en particulier la place occupée par la notion primordiale de la solidarité. Vous montrez l'importance de l'engagement dans la lutte qui persiste quand on est à la retraite. Celle-ci se nourrit des liens entre les ouvriers et ouvrières qui se sont construites pendant la période marquante de l'histoire ouvrière, mai 68, et la grève victorieuse de 1989, qui a inspiré le nom du groupe 89 d'ailleurs. Vous nous expliquez que la solidarité repose sur cette mémoire qui continue à exister dans la conscience collective de ces ouvriers et ouvrières. L'expérience du vieillissement chez les ouvriers et ouvrières de l'usine Peugeot Sochaux est marquée par l'importance du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière. Elle se traduit aussi par des façons de faire et des façons d'être spécifiques au monde ouvrier, comme par exemple la bricole que vous mettez en lien avec la pinaille. C'est cette manière de détourner les moyens de production à l'usine pour son propre compte ou pour les copains. Vous introduisez aussi la question de l'évolution du féminisme populaire et son intégration à la sphère syndicale. Au-delà, vous traitez l'importance des dispositions de genre dans la lutte collective. Vous mettez en avant la continuité des anciennes pratiques militantes jusqu'au bout contre la montée de l'extrême droite. Vous évoquez par exemple l'implication de ces ouvriers et ouvrières dans les manifestations des Gilets jaunes ou lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Toutefois, vous soulignez le manque de l'engagement politique des jeunes ouvriers et la fragilité de la transmission du militantisme politique des ouvriers retraités à leurs enfants. Alors, l'ouvrage se distingue par votre écriture inclusive et votre talent d'écrivain. Les thèses et les constatations sont justifiées par des scènes de vie du groupe 2009, ce qui fait du livre une belle lecture sociologique accessible à un large public. Il est facile de s'y plonger dedans, de s'identifier au personnage, mais également de s'en souvenir longtemps après avoir refermé le livre. Alors, Jusqu'au bout est donc bien plus qu'un simple portrait des ouvriers retraités. C'est un hommage à une génération qui... génération ouvrière qui, malgré toutes les difficultés, reste profondément attachée à ses valeurs et ses convictions. Ces hommes et ces femmes nous montrent que la solidarité est une force qui est capable de surmonter bien des obstacles.
Merci Dora. Donc Wissal, c'est à vous.
Merci beaucoup. Donc quant à vous, Gaspard Lyon, votre livre porte sur le camping résidentiel et leurs résidents à l'année, donc des résidents qui, pour qui c'est bien l'unique domicile, dans des lieux qui sont plutôt associés au contexte de vacances dans l'imaginaire collectif. Or, vous vous intéressez à une réalité qui concernerait jusqu'à 100 000 personnes en France. Vous avez mené une enquête sociologique pendant 10 ans, durant laquelle vous avez adopté une démarche ethnographique avec des entretiens et une observation participante, puisque vous avez vous-même vécu dans une caravane dans un des campings étudiés. Cette démarche ethnographique donne à votre livre son côté vivant, incarné, que nous avons beaucoup apprécié. Le lecteur est placé au plus près des résidents, les photographies permettent de se projeter dans les habitats, on s'y croirait. Votre livre permet d'éclairer une réalité mal connue, qui existe pourtant aussi bien aux États-Unis qu'en France, et qui est l'occasion pour vous de traiter du mal-logement des classes populaires. Vous insistez d'ailleurs sur le fait que, ici comme de façon plus générale, la question du logement est pour un sociologue l'occasion de mieux comprendre l'expérience et les styles de vie des classes populaires. Tout l'intérêt de votre enquête est alors de nous montrer la diversité des situations et des profils que l'on regroupe dans cette catégorie pour laquelle on utilise à raison le pluriel. Aussi, votre travail se caractérise par un refus du point de vue misérabiliste, fréquent dans la presse et parfois dans d'autres travaux scientifiques lorsqu'on évoque les questions d'habitat précaire. Vous montrez par exemple comment certaines personnes voient leur habitat, même précaire, comme quelque chose de positif. Ainsi, votre livre montre que vivre au camping n'a pas le même sens selon qu'on appartient à la fraction supérieure des classes populaires, c'est-à-dire à la frontière des classes moyennes, ou que l'on appartient aux fractions les plus précarisées, ou encore qu'on se trouve dans une position médiane. Trois groupes se distinguent donc, et vous décrivez la façon dont chacun se retrouve au camping, ainsi que les rapports différenciés qui peuvent se nouer à ce type d'habitat. Les témoignages que vous récoltez nous montrent d'abord un profil de résidents qui ont un rapport heureux au camping résidentiel, parce qu'il représente pour eux une alternative à la pleine propriété. Vous identifiez ensuite un profil d'habitant qui se distingue par un vécu marqué par la souffrance de se retrouver au camping, suite à l'épreuve du déclassement, notamment après une rupture conjugale ou la perte d'un emploi. Ils n'investissent ni l'habitat ni la sociabilité, car ils comptent bien en partir rapidement. Enfin, les résidents de la frange la plus défavorisée des classes populaires, notamment les bénéficiaires des minima sociaux, parviennent à vivre dans des campings sous un mode qu'ils qualifient de positif, en transformant un habitat précaire en un mode de vie assumé et valorisé, et ce, d'autant plus qu'ils favorisent l'entraide. C'est important de retenir que, quel que soit leur rapport, heureux ou malheureux, leur situation est toujours précaire. Ils ne sont jamais pleinement propriétaires et ne bénéficient pas des droits des locataires. C'est ce que montre votre dernier chapitre, face à une décision d'expulsion prise par un maire, et malgré une mobilisation collective conséquente, tous ont été délogés. Vous mettez ainsi en lumière la vulnérabilité de ces individus. Enfin, le prisme du camping résidentiel est bien une façon saisissante et novatrice de nous permettre de prendre la mesure de la crise du logement en France. Ainsi, après nos deux présentations, nous allons passer à la phase de questions. Je commence par la première question. On sait que l'un comme l'autre, vous n'en êtes pas à votre première enquête. Est-ce que, dans ce cas de figure, l'accès à ce terrain s'est avéré complexe ? Par ailleurs, dans la mesure où vous êtes tous les deux présentés à votre population d'études ou sur votre terrain en tant que sociologue, est-ce que cette étiquette d'intello a rendu délicate votre intégration ? Avez-vous eu le sentiment parfois d'avoir commis des faux pas, par exemple ?
Alors, merci beaucoup. Merci Dora pour le résumé. Alors, sur la question du statut du sociologue de l'intello, la grande spécificité de mon enquête, c'est que j'arrive en terrain balisé, c'est-à-dire que j'arrive après d'autres sociologues et d'autres historiens, en fait, parce que je ne l'évoque pas toujours forcément, mais il y a aussi des historiens qui sont... Christian Corrouge rencontre un maoïste quand il arrive à Montbéliard. Quand il est logé en cité, il rencontre Yves Cohen, qui à ce moment-là est un maoïste qui est établi à l'usine de Peugeot et qui va rester quelques années, puis qui va reprendre des études d'histoire et qui va devenir un grand historien français, voilà, qui a travaillé notamment sur les questions d'autorité. Il rencontre par ailleurs assez vite, dans la foulée, de cette grève des locataires du logement en logement social, enfin en logement en champ. Chambre, comment on appelle ça, les foyers de jeunes travailleurs, ils rencontrent très vite les cinéastes des groupes Medvedkin, qui sont des cinéastes militants, donc Chris Marker, Godard et compagnie, qui ont voulu faire des films avec les ouvriers, mais avec, c'est-à-dire en leur apprenant à filmer, à manier une caméra et en faisant les scénarios avec eux. Donc voilà, il y a toute une familiarité qui fait que très vite, ces jeunes ouvriers ont rencontré le couple composé de Bruno Muel et Francine Muel-Dreyfus. Bruno Muel était technicien du cinéma, Francine sociologue. 10 ans plus tard, le couple fait rencontrer Christian à Michel Pialoux. Voilà, qui arrive en 84, il arrive et il ne partira plus de Sochaux jusqu'à ce qu'il arrête les enquêtes à la fin des années 2000. Bref, il y a toute une histoire, donc je suis connu. C'est pas que je suis connu, c'est que le sociologue est connu et du coup, c'est assez drôle. C'est même plutôt très drôle, c'est-à-dire que quand j'arrive chez Corouge, assez vite, il me demande un coup de main pour une bricole et tout, et il se fout de ma gueule en me disant t'es aussi maladroit que Stéphane Beau. Voilà, bon. On va beaucoup se moquer de moi. C'est-à-dire que c'est des milieux militants où ils ont une certaine assurance, au-delà de Christian Corouge, hein, les femmes aussi ont une certaine assurance et ne se laissent pas faire. Et donc, du coup, c'est important pour eux de sortir l'intellectuel de son piédestal et de le remettre à niveau, quoi. Donc, du coup, l'enquête, elle est assez facile. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole à Gaspard et pas monopoliser.
Merci. Ouais, merci aussi pour la présentation. Donc, alors, de mon côté, j'avais pas d'entrée particulière. Je dirais que c'était pas non plus. Enfin, il y a eu aucun obstacle infranchissable, hein, durant l'enquête. Après, les difficultés, elles sont plutôt venues en fait des gérants eux-mêmes, des gérants, des gérantes, puisque c'est une situation qui est formellement qui est pas autorisée, hein, de vivre à l'année, en tout cas comme ça dans ces terrains de camping. Donc beaucoup de gérants qui refusaient le principe de me faire entrer sur leur terrain au motif que c'était un sujet trop délicat, ou la plupart en fait niaient l'existence du phénomène. Alors même que j'avais pu avoir des contacts souvent avec des résidents ou des résidentes sur place. Et après, une fois sur place, avec les personnes rencontrées, c'est vrai que la distance sociale était sans doute perçue, en tout cas, sans doute plus importante que dans le cas de Nicolas. C'est des personnes qui, pour la plupart, en fait, ont arrêté l'école au niveau du certificat d'études. Alors, en même temps, il y avait une distance aussi en termes d'âge. Ce livre, il est issu d'une thèse donc, que j'ai commencé quand j'avais donc une vingtaine d'années. Et donc, j'ai eu aussi le sentiment que par moments, qu'il y avait la volonté de m'aider dans quelque chose qui était perçu comme une sorte de devoir scolaire. Après, c'était pas au cœur du tout des relations. C'est l'identification première, c'était plutôt l'image d'un journaliste, hein, qu'ils avaient, ou alors quelque chose d'un peu abstrait, un peu éloigné. Et l'enjeu pour moi, c'était plutôt ça au départ, c'était de faire comprendre que le travail d'un chercheur, d'une chercheuse, n'est pas celui d'un journaliste, c'est pas les mêmes temporalités, les mêmes manières de faire. Et c'est d'ailleurs, et c'est en fait précisément en faisant, en étant sur place de manière régulière, etc., que souvent ces craintes-là qui ont pu exister, avec les faux pas qui les accompagnent aussi, hein, ont pu parfois, dans un certain nombre de cas, être relevées. C'est de comprendre que finalement, ça n'avait pas d'effet immédiatement négatif, hein, sur leur existence, puisque ce que craignaient beaucoup de ces personnes, c'était de rendre visible, du point de vue des gérants, des gérantes, mais du point de vue des résidents aussi, hein, leur situation, et encore plus finalement du point de vue des résidents et des résidentes, puisque ils sont, comme vous l'avez rappelé, dans un rapport hiérarchique de subordination, et dans les faits, ils avaient quand même plus à perdre, probablement qu'à gagner, en tout cas comme ça, du point de vue, au sens où donc après, voilà, l'enquête permet, les relations de confiance, etc., permettent de finalement, beaucoup, en fait, ont accepté très facilement, se sont joués au jeu. Et après, bah, j'étais, pour un des campings, j'avais une caravane, donc j'étais un des voisins d'un certain nombre de résidents. Et c'était plus, voilà, c'était plus le statut de l'enquêteur ou du chercheur était plus au cœur non plus des relations. Ouais.
Est-ce que je peux compléter ? On a le temps, ça va. Juste par rapport à la réponse de Gaspard, on m'a fait penser à deux choses. La première, effectivement, les questions d'âge sont essentielles. C'est-à-dire que le statut d'étudiant, c'est une clé d'entrée monumentale sur le terrain. On le comprend qu'une fois qu'on n'est plus étudiant et qu'on a la chance de rentrer dans le métier, donc d'être voilà. Mais c'est fondamental parce qu'un étudiant, on l'aide. Quels que soient les milieux, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu confirmerais, mais voilà, c'est quand même le... et puis, l'autre élément, c'est que dans l'enquête, il y a aussi toute une partie, une fraction des enquêtés qui ne sont pas des militants. Et là, l'opposition manuelle intellectuelle, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que nous sommes des intellectuels, nous représentons l'intellect, et eux, ce sont des manuels qui, souvent, ont un vécu très difficile de l'école. Et ça marque à vie. Et souvent, c'est intergénérationnel, ça se transmet. Bon, bref, c'est très compliqué. Et la chance que j'ai, enfin, c'est que, mais c'est aussi un engagement, c'est-à-dire que comme Gaspard a habité en caravane avec les enquêtés, j'ai habité chez Christian Corrouge, et donc j'ai rencontré les copains qui viennent chez lui bricoler tous les jours. Et c'est souvent des copains qui sont encore actifs théoriquement, dans le sens où ils ont moins de 60 ans, pardon, moins de 64 ans maintenant, mais ils sont en invalidité, etc. Ce sont des hommes cassés par la vie. Et là, il y avait une vraie barrière intellectuelle manuelle, mais le fait d'habiter chez Christian, de me lever le matin, ils étaient déjà là en train de bricoler, donc ça engage à des choses qui sont, voilà, ils m'ont réparé ma voiture, etc. Donc il y a une relation, c'est d'où le fait que l'observation participante est essentielle, quoi, dans nos enquêtes.
Alors, vu que vous parlez des relations, au cours de vos enquêtes assez longues, on la rappelle, vous avez indéniablement créé un lien affectif avec vos enquêtés. Alors, Monsieur Renaille, à la lecture de votre ouvrage, on ressent la proximité qui vous lie avec les enquêtés. Pouvez-vous préciser et caractériser la nature des relations qui se sont tissées au cours de ces années ? Des liens de camaraderie peut-être, d'amitié ? Continuez-vous à les voir au-delà de l'enquête et de la publication du livre ? Merci.
Alors, ben oui, à toutes les questions. Oui, il y a des liens d'amitié qui se sont noués. Oui, je continue à les voir. Et oui, je continuerai à les voir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont... Christian a 74 ans, 75 ans. Lily, donc, un personnage qui est le personnage le plus âgé qui apparaît dans le livre, qui est un personnage très, très attachant. Bon, ben voilà, elle a 87 ans. Donc, il y a un lien affectif assez fort. Qui explique mon émotion, qui est en partie héritée aussi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui me dépasse, mais qui, pour continuer le fil de ma première réponse, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le bouquin qu'a écrit Corrouge avec Pialou, qui s'appelle « Résister à la chaîne ». Donc, il y a deux grosses parties qui sont des séquences d'interviews fleuves de Corrouge. Et au milieu, il y a quelques pages où, là, c'est Pialou qui raconte à la première personne une scène qu'il a vécue, lui, de manière violente. Parce que, en fait, il y a un militant qui chapeaute Corrouge, qui vient le voir et qui le met en garde sur qu'est-ce qu'il vient faire là et comment il veut utiliser Corrouge, quoi. Et alors... Pialou, le prof de socio, le vit mal. On le sent très bien quand il l'écrit, mais j'ai reparlé, alors, 30 ans plus tard, de cette scène avec Christian Corrouge. Et pour lui, c'est normal. C'est-à-dire que pour lui, en tant que militant, le conflit fait partie de la vie. Et se dire les choses, c'est pas grave. Enfin, ça fait partie des... Voilà. Et ça n'engage pas le respect qu'on a l'un pour l'autre et la pérennité de la relation. Et de toute façon, par ailleurs... ce sont, alors ça c'est un autre grand thème du bouquin, on pourrait y revenir plus tard, mais ce sont des ouvriers et des ouvrières militantes qui ont un rapport à la culture et qui ont un rapport aux intellectuels. Alors j'ai expliqué pour Christian, mais et ça c'est très important dans leur vie. Et donc le fait d'avoir cette relation qui s'est nouée avec eux, c'est très important pour eux, et je peux vous dire que Christian Corrouge est en pleine forme physique et intellectuelle en ce moment, notamment parce que le bouquin est sorti, qui fait des interventions avec moi, des rencontres comme ce soir ou présente. C'est quelqu'un qui vit par la parole militante. Et donc le fait de lui donner l'occasion de reprendre le micro, il a été interviewé, je ne sais pas si vous avez vu dans Mediapart la semaine dernière, voilà, ça le porte. Donc c'est une relation au long cours.
Quant à vous, Monsieur Lyon, de la même façon, comment faire abstraction de ce lien et conserver la neutralité du sociologue quand vous êtes mis face à des injustices, par exemple ? On pense bien sûr au comportement du maire au moment de l'expulsion dans votre livre.
Une grande question. Comment ? Enfin, disons que l'approche ethnographique, je suis pas sûr qu'elle soit, elle soit une barrière en fait à l'objectivation. Il y a tout un travail qui se fait. Par le temps, par l'écriture, au moment de pendant l'enquête elle-même, mais aussi à par la suite, hein, de où on essaie précisément d'essayer de prendre un peu de recul, de distance par rapport aux affects qui peuvent effectivement nous saisir au quotidien. Donc là, alors après, est-ce que j'y suis arrivé ou pas, je sais pas, hein, mais sur la question de l'expulsion locative, j'ai cherché à rendre compte de la manière la plus précise possible, plus factuel, en l'occurrence en adoptant une démarche plus narrative dans ce chapitre-là, pour essayer de montrer comment quelles étaient les logiques de voilà, pas ne pas m'en tenir à un discours de dénonciation, mais essayer de voir concrètement comment, par quels outils, par quels instruments la municipalité s'y était prise pour conduire cette expulsion et comment les personnes avaient réagi de manière elles-mêmes différenciée, avec aussi pas mal de conflictualité au sein même des résidents et des résidentes, hein, qui il y a eu un certain nombre d'obstacles liés au statut juridique d'occupation qui les protégeait peu, des personnes qui étaient faiblement dotées en termes économiques bien sûr, mais aussi sur le plan culturel, en termes de connaissances administratives, et puis la diversité des trajectoires que vous avez évoquées, des positions sociales ont fait la mobilisation que vous aviez évoquée, elle a pris fin aussi parce que à un moment donné, et le maire est pas non plus étranger à ça, hein, a réussi à exploiter les divisions sociales pour les diviser dans cette lutte qui était conduite. Donc voilà, je dirais que ces affects, c'est un levier aussi pour rendre compte de manière sensible, il me semble, des existences, des expériences. Il ne s'agit pas seulement de contrôler par l'écriture, mais c'est aussi une manière de rendre concret il y a les photos dans le livre, mais voilà, c'est aussi d'écrire la vie concrètement des personnes qu'on accompagne, au-delà justement d'un discours qui est un peu surplombant, qui est généralement porté en fait sur les personnes privées de logement, à la rue, je ne peux pas généraliser comme ça, mais là, il y a quand même beaucoup de discours, notamment médiatiques, qui décrivent ces situations plutôt par défaut, en termes de manque, de carence, sans domicile, privé de logement, inconfort, insalubre, inconfortable, hors normes, tout un tas de termes qui donnent une vision très dépréciative et privative en fait, de la vie de ces personnes. Et l'ethnographie, ces relations de longue durée, ça permet aussi, il me semble, de redonner un peu de chair et de rendre compte aussi par la parole de la manière dont les choses peuvent être vécues concrètement par les personnes elles-mêmes. Ouais.
Alors, à présent, nous allons parler avec vous des ficelles du métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez concrètement sur vos terrains d'observation respectifs ? Vous participez à de nombreux moments de partage et de discussion, par exemple, vous, Monsieur Nicolas Rénaï, aux apéros, à la Coupe du Bois, aux funérailles, etc. Comment repérez-vous ce qu'il faut observer et ce qu'il faut retenir des discussions, par exemple ? Et plus spécifiquement pour vous, Monsieur Gaspard Lyon, comment arrivez-vous à intégrer la photographie dans votre travail de terrain ? Merci.
Comment on repère le problème de l'âge avec les ficelles du métier, c'est que les choses sont de plus en plus spontanées et de moins en moins conscientisées et disciples du coup. Alors, j'ai évoqué l'observation participante. Pour moi, c'est surtout quand on enquête auprès des milieux populaires, c'est un moyen essentiel de recueil de données de première main, dans la mesure où les milieux populaires, contrairement aux intellectuels et donc aux cadres et aux milieux bourgeois ou dominants, n'ont pas un accès facile à la parole ou à la parole publique. Et donc, je peux faire référence à l'enquête sur les gars du coin ou au chapitre sur la base, voilà, où les personnages d'Akram, etc., ils ont une parole très, très proche des questions matérielles, très proche de l'humour, voilà, mais dès qu'il y a une forme d'abstraction, il y a un décalage. D'où l'importance d'observer et de passer du temps avec eux, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont une parole qui est loin de l'abstraction qu'ils n'ont pas des raisonnements abstraits. Et donc, pour accéder à ça, c'est le temps qui fait la présence, enfin, qui fait voilà, l'importance de... Alors après, je peux essayer de répondre sur la question des ficelles, sur la question des apéros. C'est-à-dire que au départ, j'étais pas là pour enquêter sur eux. J'étais là pour enquêter avec Christian Corrouge sur la pratique des affouages, qui est la coupe des bois communaux dans les forêts publiques, les forêts communales. Et donc, j'allais aux manifs. J'allais à la chorale, j'allais à la chorale CGT, j'allais aux apéros chez Clairette, chez la personne qui nous accueillait, après les manifs ou en dehors, parce que j'étais hébergé chez Christian et que je voilà. Et en fait, c'est là qu'est né l'intérêt de l'enquête. Enfin, ce que j'entendais, ce que je voyais, était tellement important dans le sens où ce sont des choses que l'on ne sait pas dans l'espace public, dans l'espace académique, en sociologie. Et ce sont des choses qui se disent et qui se font simplement en milieu, dans les milieux populaires dans lesquels on passe du temps. Et donc, du coup, quand on... C'est le décalage, en fait. C'est ce que j'avais appelé avec un autre collègue la double appartenance. C'est-à-dire que l'expérience ethnographique est une expérience fondamentale. D'une part, parce qu'elle nous engage avec des personnes... Alors, quels que soient les milieux qu'on enquête, hein, elle nous engage fortement avec les personnes avec qui l'on vit, où on partage du temps, où, voilà, où on fait des entretiens le temps d'une enquête. Mais elle est fondamentale aussi parce que elle nous permet de... Comment dire Elle nous permet d'accéder à des choses qu'on ne voit pas, quoi. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai perdu le fil, je suis désolé, donc je laisse la parole à Gaspard pour compléter.
Pour prolonger, ouais, l'importance effectivement de des échanges pratiques, enfin de participer au. Je rejoins complètement ce que disait Nicolas sur la une des difficultés quand on, par exemple, de s'en tenir uniquement à des entretiens, c'est de reconduire une forme scolaire. Enfin, ça peut être vécu comme ça, c'est-à-dire des entretiens que j'ai pu faire, par exemple, avec des... Vous me parliez tout à l'heure des faux pas, j'ai pas totalement répondu à la question. Il y a eu un certain nombre de refus, par exemple, qui étaient guidés, en fait, motivés par cette expérience où ça les ramenait à une forme de... Et donc, c'était très clair en entretien, c'est-à-dire que le jour où j'arrivais, enfin... à avoir un temps d'échange vraiment. Là, en l'occurrence, par exemple, la scène à laquelle je pense dans ma caravane où il me demandait s'il fallait qu'il prenne un stylo. Enfin, je sentais que c'était qu'il y avait une forme d'un rapport comme ça de domination symbolique qui était vécu comme tel par la personne. Et ça permet surtout de voir, comme tu le disais, comment la vie s'organise au quotidien. Et elle s'organise beaucoup autour d'activités pratiques, en particulier là du côté des fractions ou des personnes les plus précarisées. Hein, où c'est des personnes qui, c'est aussi une question de temps en fait. Ils passent énormément de temps dehors, les uns chez les autres, à se rendre service, avec des relations d'entraide. À bricoler, à jardiner, enfin, donc les activités, c'était celle-là aussi. Il y avait des activités de loisirs comme la pétanque, par exemple, et autrement, bah, c'était cuisiner avec certaines personnes, parfois regarder la télévision, aller surtout aussi au lavomatique, aller faire les courses. Où c'était ce genre de faire des balades à côté également, chercher des champignons pour certains. Enfin, c'était, mais ça, voilà, ça permettait de s'inscrire vraiment dans le registre de pratique qui était davantage à l'œuvre. Alors après, j'ai quand même fait pas mal d'entretiens. C'était des entretiens répétés, mais voilà, plus ou moins informels. Ça dépendait avec qui. Et souvent, ça, c'est pas pour voilà ce que je disais tout à l'heure. Ça vaut pas pour toutes les personnes rencontrées, hein, mais pour plusieurs, c'est effectivement un des freins. Ouais.
Il y avait, il me semble, un mot peut-être sur l'usage de la photographie.
Ah oui, pardon. Oui, sur la photographie, bah, en fait, c'était une. Bah, pour moi, je dirais que c'était une façon de je m'intéressais aux intérieurs, à la manière dont ces personnes s'approprient leur espace de vie. Donc, c'était une manière d'objectiver vraiment la question de l'aménagement, de la décoration, plus que ce que j'aurais pu faire en simplement par la mémorisation. La retranscription après sur mes journaux, ce que je faisais aussi, mais voilà, ça permettait de comparer plus précisément les situations, être plus attentif aussi à certains détails sur lesquels je pouvais revenir après dans les discussions. Et puis en fait, il s'est avéré aussi que ça a finalement eu un rôle de révélateur des différences dans le rapport à l'habitat pour les personnes elles-mêmes, puisque indirectement, la réaction des personnes à la question de savoir est-ce que je pouvais me permettre de prendre une ou deux photos était directement souvent liée à la façon dont ils se projetaient dans cet espace, dont ils le vivaient, etc. Pour dire les choses rapidement, en gros, les personnes qui vivaient très difficilement avaient plutôt tendance à me dire de revenir, à évacuer cette question-là. Et les personnes qui le vivaient, alors je schématise un peu, hein, mais le plus positivement, notamment pour les fractions les plus stables, qui font le choix, entre guillemets, parce que c'est un choix contraint, mais de quitter un logement pour aller s'installer dans un mobil-home, étaient au contraire, très, même souvent en demande, en fait, ils voulaient me faire rentrer, etc. Donc ça, il s'est avéré que ça, voilà, que ça avait aussi un rôle de révélateur des expériences différenciées, la segmentation en fait, sociale des personnes qui résident dans ces terrains de camping.
Bien, merci. Madora et Wissal, merci beaucoup. On vous laisse redescendre dans la salle et on va accueillir donc Arman et Anatole pour un deuxième temps de questions. Il va s'agir aussi de revenir avec vous sur le travail d'écriture, la réception de vos ouvrages, la portée politique des ouvrages. Et voilà, je laisse tout de suite la parole à
Bonjour Monsieur Lyon, bonjour Monsieur Renaï. J'enchaîne, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vos deux livres ont un point commun, ils sont accessibles, et c'est là leur force, à notre sens. Vous arrivez à expliquer des concepts scientifiques dans un langage accessible. Pourquoi ce parti pris ? Est-ce un choix éditorial, politique, personnel ou militant ? Ou tout à la fois ?
Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire. C'est une réponse simple et bête, mais... Alors, ça m'est arrivé de travailler avec des collègues économistes ou sociologues, statisticiens. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est une autre forme de raisonnement. Donc, intellectuellement, c'est stimulant. Mais dans l'écriture, je trouvais ça sec, âpre, compliqué. Enfin, c'est pas forcément le côté compliqué qui... Voilà, ce qui me plaît, moi, là, mais c'est lié à mon histoire personnelle, c'est sympa, puis à la formation que j'ai eue, etc. Hein, c'est de partir d'histoires de vie, de choses simples, de choses compréhensibles, parce que la sociologie a cette fonction politique d'expliquer le monde, tout simplement. Et donc, si on veut pas simplement expliquer le monde aux dominants, au pouvoir, pour que, mais essayer de viser un plus grand nombre, sachant que c'est une question très, très difficile, d'arriver, parce que le plus grand nombre n'existe pas, et le plus grand nombre, en fait, c'est souvent les gens qui nous ressemblent. Être lu par les milieux populaires, c'est un énorme enjeu. Et scientifique, mais politique aussi. Voilà.
C'est-à-dire que dès le premier jet, vous écrivez de manière lisible pour tous.
Alors, j'essaye, mais c'est un gros travail. J'ai eu la chance d'être bien accompagné par les directeurs de collection. Mais dès le premier jet, oui, il y a cette volonté de... Je crois que le mot, c'est rendre accessible. Rendre accessible autant le savoir qui est produit empiriquement que le savoir sociologique. Je pense que c'est peut-être le sens militant que je donne à mon boulot, quoi. Alors militant, c'est un bien gros mot, mais le sens politique, du moins. C'est-à-dire l'accessibilité du savoir, c'est une bataille.
Et l'éditeur, il vous laissait une complète liberté sur votre manière d'écrire ?
Oui, les seules limites que j'ai eues à tel ou tel moment, c'est des limites liées au droit. Lié à la question, par exemple, à un moment donné, j'évoque une manif où les militants revissent une une plaque d'un député avec un faux nom, parce que le député a eu peur, donc il a enlevé sa plaque, il avait peur que son local soit détruit ou abîmé ou pris voilà, par les militants pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. C'était un député macroniste, évidemment. Alors, je peux le dire, puisque si on est filmé, bon, je m'en fous. C'est le député Paco. Voilà. Et puis, j'ai assisté à un brainstorming à l'union locale avec les militants CGT qui cherchaient, qui avaient trouvé l'astuce de, comme ils avaient vu qu'il avait enlevé sa plaque, ils voulaient remettre une plaque alternative. Et donc, il y a eu plein de propositions qui ont été faites, etc. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui est un plus jeune qui arrive et qui dit Paco, pacotille. Député de Pacotille, hein, voilà. Et donc, ils ont trouvé permanence du député de Pacotille. Hein. Ils étaient très contents de leur effet. Et effectivement, ça a eu un bel effet pendant la manif, puisque tout le monde s'arrêtait. Il y a eu un article dans l'Est républicain, etc.
Et vous, monsieur Lyon ?
J'aurais pas beaucoup de choses à rajouter. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas non plus eu le sentiment... Enfin, disons que publier un livre, l'idée, c'est que ça soit effectivement accessible. Et j'ai pas eu le sentiment de faire un effort particulier du point de vue... Alors si, par moment... essayer de rendre compréhensible, ne pas abuser non plus trop des références par rapport à un article scientifique, mais c'est aussi plutôt ma manière d'écrire. Enfin, je me suis pas contorsionné pour voilà, c'est pas les articles. J'ai le sentiment que les articles scientifiques que je peux écrire sont pas si éloignés de ce type de format. Oui, il me semble aussi que c'est une des fonctions d'une publication, enfin notamment sous la forme d'un livre par rapport à des articles, c'est que ça puisse être lu par d'autres personnes, pas forcément uniquement par le monde universitaire ou par des étudiants, des étudiantes en sociologie ou en sciences sociales, quoi.
Après, pour compléter, je pourrais juste te dire, excuse-moi, ouais. C'est la question de la vulgarisation, en fait. La comparaison que tu fais entre un article scientifique et ce type de bouquin est très bonne, c'est-à-dire que je vais parler que pour moi, mais je suis quand même un scientifique. Et donc, l'éditeur, très régulièrement, m'a quand même repris à plusieurs reprises en me disant qu'est-ce que tu veux dire par là ? Enfin, comment tu peux... vulgariser cette notion. Comment tu peux la dire simplement ? Et la vulgarisation, à la fois, c'est un travail très noble et en même temps un travail très difficile. Comment on fait pour expliquer simplement ce que c'est qu'un champ, ce que c'est qu'un capital militant, ce que c'est que voilà, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est des questions que se posent aussi tous les enseignants quand ils vous font cours, quoi. C'est surtout pour les L1, j'imagine, quand les jeunes sortent du bac et arrivent à l'université et n'ont pas forcément beaucoup lu de sociologie. Voilà, c'est cette question-là qui se pose, en fait.
Merci. Bonsoir, monsieur Renailly. Bonsoir, monsieur Lyon. Face à l'ampleur du matériau que vous avez récolté durant l'enquête, comment s'opère la sélection au moment de l'écriture ? Comment vous décidez de mettre l'accent sur telle histoire plutôt qu'une autre ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire que vous n'avez pas dites par faute de place ? Pouvez-vous nous raconter une ou deux expériences qui vous ont marqué sur le terrain et que vous avez été contraint de ne pas intégrer dans le livre ?
J'espère que tu as commencé pour une...
sur les choix d'écriture. Alors moi, il se trouve, c'est vrai qu'on a, c'est pas exactement le même type de format entre le livre de Nicolas et, pour ma part, c'est Nicolas. Tu as fait le choix quand même, il me semble, de partir aussi de, tu suis des trajectoires, des profils, ce que je fais un peu moins moi dans mon cas, hein, c'est plutôt par grand type de profil, par chapitre, et ensuite il y a des variations, mais il me semble que je suis un peu moins, voilà, donc ça tient à la manière aussi dont on construit l'objet. De mon côté, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de montrer comment derrière une vision homogénéisante, en fait, il y a des différences assez marquées dans les styles de vie des personnes qui habitent ces formes d'habitat, du point de vue du rapport au temps, aux sociabilités, à la consommation, au logement lui-même, enfin voilà, sur tout un tas de d'aspects. Alors les choix qu'on fait, bah il y a quand même ça peut sembler être un gros livre, et en même temps une des principales pour moi, en tout cas, contraintes, c'est de réussir à... Il y a des contraintes éditoriales et de plus en plus, hein, sur le en termes de signes, en termes de pages, de réussir à Donc, j'ai, à vrai dire, j'ai eu un peu du mal à sabrer, à couper, à ne pas dire exactement. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas dites, que j'aurais eu envie sans doute de. Peut-être sur des portraits ou sur des situations, être plus précis sur l'enquête, donc je dis pas grand chose dans ce livre sur la manière dont elle s'est déroulée, sur les relations qui ont pu être tissées avec les personnes que j'ai rencontrées, sur un certain nombre de points.
Oui, je peux que dire la même chose autrement. Enfin, je vais essayer de le dire autrement. Effectivement, alors c'est pas du tout pour nous faire mousser, c'est pour dire que le travail sociologique, c'est un vrai travail, et notamment le travail d'enquête. C'est-à-dire que j'ai une amie qui était très intéressée par le travail avec qui j'ai correspondu pendant l'écriture, et elle me demandait un exemple, et donc je lui ai envoyé un entretien complet. Donc un entretien de 3 heures avec un des jeunes du syndicat, où en fait je dois tirer de la. Donc j'ai fait une première analyse. Donc il y a l'entretien, il y a la première analyse que je fais, et puis après de ce qu'il en reste dans le bouquin, il doit y avoir 5 phrases de cet entretien. Et ça, c'est systématique avec tous les entretiens. Il n'y a jamais des entretiens très longs, parce que. C'est l'éditeur qui demande ça, mais c'est aussi une logique de lecture. Il faut avoir une écriture dynamique. Et l'autre élément de réponse qui est fondamental, c'est que, en fait, les choix qu'on fait, pour essayer de répondre vraiment à la question, les choix qu'on fait, en fait, au bout d'un moment, c'est le bouquin qui les donne. C'est-à-dire que le plus dur quand on travaille, quand on a la volonté de faire un bouquin, c'est de trouver un propos. Et une fois qu'on a trouvé ce propos, c'est le propos qui guide l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on ne doit pas dire, ce qui est superfétatoire, enfin ce qui est de trop, quoi, ce qu'il faut ébavurer, ce qu'il faut enlever. On le sait spontanément, en fait. Alors, des fois, on est aidé par nos relecteurs aussi, quand même, faut pas tout. Mais il y a quand même cette idée que c'est pas du tout pour donner un côté magique au travail d'écriture, c'est pour dire que on a l'habitude de dire aux étudiants un article, c'est une idée, un bouquin, c'est un propos. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le propos, on a enfin compris quel chapitre garder, comment les articuler, éventuellement changer l'ordre, et surtout dans l'écriture après, quoi utiliser et quoi ne. Enfin, et du coup, en fait, on n'est focalisé que parce qu'il faut qu'on utilise. Mais du coup, tout le reste tombe, quoi, et n'a plus d'importance. Et on les réutilisera peut-être pour d'autres travaux plus tard.
Et votre ouvrage est sorti très récemment, en octobre. Vous indiquez que vous avez souhaité, en écrivant ce livre, rendre aux protagonistes de votre ouvrage, je vous cite, une forme d'hommage à leur existence passée et présente. Savez-vous s'ils ont lu votre livre? Si oui, comment l'ont-ils perçu? Et sinon, avez-vous d'éventuelles appréhensions?
Alors, premier élément de réponse à cette question... Qui est lié au premier bouquin, Les Gars du Coin. Alors, pour Les Gars du Coin, je ne suis pas toujours arrivé, mais la règle que je m'étais donnée, enfin, que j'ai essayé de me donner, c'est de faire en sorte que, de me mettre en. Une fois que j'avais rédigé un passage qui concernait la vie intime d'une personne, j'ai essayé de me dire si la personne te lit, est-ce qu'elle va garder la face? Est-ce qu'elle va sauver la face? Est-ce qu'elle ne va pas être déshonorée, etc. Machin. C'est quelque chose de fondamental pour moi. C'est-à-dire que je n'écris pas, à la limite, ni pour ni contre ces personnes. L'enjeu, c'est de dire ce qu'il y a de sociologique dans leur trajectoire, dans leurs propos, etc. Et d'avoir un propos plus général. C'est le pari d'ethnographie. Donc, du coup... Alors, voilà. Alors, du coup, j'ai oublié la question. Qui était ?
La question, c'était...
Ah oui, sur la lecture. Oui. Alors, je vais répondre de manière empirique. En fait, il se trouve que... Alors, j'ai fait le choix, grâce à la relation privilégiée que j'ai avec Christian, de... ma femme fait des ateliers d'écriture. C'est une ancienne prof. Et pour Christian, l'accès à l'écriture, pour lui-même et pour ses copines et ses copains, c'est quelque chose de très important. Et donc, il y a un week-end, on a loué collectivement un gîte pour une dizaine de personnes pendant un long week-end. Et ma femme a organisé des ateliers d'écriture auxquels on participait tous. Et à la fin de ce week-end d'atelier, il y a d'autres copains qui sont venus manger. On avait préparé la bouffe. Et en fait, c'est le moment où le synopsis, je pourrais expliquer ce que c'est si vous le souhaitez, mais le synopsis de l'ouvrage était accepté par l'éditeur, par La Découverte. Et donc, j'avais un document finalisé, stabilisé. Et donc, en dialogue avec Christian, j'avais fait le choix de leur lire le synopsis. Et donc, ils étaient tous, toutes et tous autour de la table. Et je leur ai lu le synopsis pour qu'ils comprennent quel était non seulement mon propos, mais la raison de ma présence. Et c'était aussi une manière pour moi de lever les réticences des personnes les plus éloignées de mon monde. Donc par exemple, Christiane, qui intervient dans le bouquin, qui ne comprenait pas ce que je faisais. Et donc le fait d'arriver enfin à mettre à plat ce que le propos du bouquin et d'arriver à lui lire, elle a compris et il n'y avait plus aucune réticence. Et donc je leur ai posé la question de l'anonymat, ou pas. Et donc c'est là qu'il y a Clairette, une des protagonistes, qui m'a dit « Ah non, 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 moi je veux apparaître avec mon nom ». Et ça a été, du coup, tout le monde a acquiescé. Voilà, donc cette enquête, elle est peut-être singulière dans la mesure où, effectivement, quand j'écris que je leur rends hommage, je ne fais que dire quel est le sens de ce bouquin aussi, quoi. C'est-à-dire que ce sont des trajectoires très singulières. Je ne prétends pas du tout à une forme de généralisation en écrivant ce jusqu'au bout. On pourrait revenir plus tard sur le sens que je donne à l'acte scientifique qui est derrière. Mais l'hommage, il est aussi de l'hommage à cette relation dans laquelle j'entre et dans laquelle j'essaie de me fondre. Et cette relation, elle est celle des relations entre intellectuels et manuels, qui me semble être un des gros problèmes de notre société contemporaine. Voilà.
Juste, quand vous dites « j'écris pas pour et j'écris pas contre ces gens », si vous dites que vous leur rendez hommage, finalement, vous écrivez un peu pour quand même.
Oui, ouais. Je disais ça au départ, c'est-à-dire dans la démarche qui est la mienne au départ. Après, effectivement, il y a la manière dont on est pris dans l'enquête et dont on... on a beaucoup parlé de la question de l'amitié, des relations proches qu'on peut avoir. Faire de la sociologie, c'est pas se faire des copains. On peut enquêter sur des personnes qu'on n'aime pas. Voilà, c'est pas. Il y a des enquêtes très belles qui sont faites sur le Front National, sur la Ligue de Nord en Italie. C'est des gens qui sont très loin de nous et qui, en plus, politiquement, ont une opposition à nous. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut. Le propos que je dis là dans le bouquin ne résume pas, surtout pas, l'acte sociologique. Au contraire, il faut se dire que quand on n'est pas là pour aimer les gens, on est là pour rendre compte de leur vie. Après. Dans la singularité de l'enquête, oui, je rends un hommage par rapport à des gens qui vont bientôt disparaître et qui rendent compte d'une forme de la classe ouvrière, en fait. C'est ça. Ce sont les derniers feux de la classe ouvrière.
Et vous, monsieur Lyon, savez-vous si les personnes que vous avez rencontrées sur votre terrain ont lu votre livre et qu'en ont-ils pensé ?
Est-ce qu'ils l'ont lu ? Non, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est-à-dire, j'ai eu des retours sur le livre, mais... À quel point, voilà, ils sont rentrés dans la lecture. On n'en a pas discuté sur le fond, quoi. C'était moi, ça s'est fait en deux temps. Donc, c'était d'abord une thèse et ensuite qui s'est prolongée. Donc, dans le cadre de la thèse, le principe c'était vraiment d'anonymiser. Et c'est un principe que j'ai maintenu par la suite parce que pour certains, un certain nombre ont été finalement expulsés. Donc, de leur côté, les risques étaient moindres, mais malgré tout, c'était. Il y a toujours, même si j'ai aussi ce souci-là de se poser toujours la question de qu'est-ce que ça donne à voir de la personne. Il y a des enquêtés, des personnes notamment qui ont parfois des discours un peu durs sur d'autres résidents du camping. Et il m'a semblé que c'était pas nécessaire de d'identifier précisément chacun. Ils peuvent de toute façon se reconnaître s'ils le souhaitent, si vraiment ils cherchent s'ils lisent le livre. Mais le principal souci, c'était de les protéger vis-à-vis des gérants et des gérantes, puisque une fois encore, voilà, leur, leur relation est une relation de subordination très très vive, très très forte, avec une insécurité très très importante. Et tout à l'heure, je disais, ils ont plus à perdre qu'à gagner. En fait, en réalité, c'est pas tout à fait. Il y a aussi une relation, de confiance, de plus ou moins intime, de amicale aussi qui s'est créée avec un certain nombre de personnes. La relation d'enquête fait qu'il y a aussi des formes de contre-don, ne serait-ce qu'en termes de présence, d'écoute. Et pour un certain nombre de personnes, ça a été aussi l'occasion d'exprimer des griefs, de rendre visible leur situation qui est insuffisamment visible dans l'espace public, ou en tout cas sous des formats qui pour beaucoup semble inadapté, hein. Encore une fois, un registre plutôt victimaire, misérabiliste, qui ne rend pas compte vraiment de leur expérience, de leur trajectoire. Et alors, j'ai eu quand même quelques retours j'ai envoyé le livre en fait aux personnes dont j'étais le plus proche, hein, puisqu'il y a notamment en fait à la plupart des personnes qui étaient dans le camping où j'avais ma caravane. Parmi les retours que j'ai eus, c'est plutôt des retours positifs, mais voilà, pas dans le fond. C'est des retours positifs sur le fait que l'objet existe. C'était quelque chose qui était important à leurs yeux, qui avait déjà, en fait, j'avais déjà pu, quand j'étais en début d'enquête, enfin quelques années d'enquête, j'avais sorti un livre où il y avait un des chapitres qui traitait d'une situation en camping, et c'était en plein dans un conflit avec la mairie, justement, et quelques résidents s'étaient saisis de ce livre comme l'attestation, la preuve finalement à leurs yeux et au public objectif de ce qu'ils étaient en train de vivre en termes de violence, en termes de violence publique, etc. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que les retours m'ont été faits. C'est-à-dire, voilà, c'est le livre est là, c'est maintenant personne, voilà, on le sait, c'est documenté. Et voilà, mais on n'a pas eu, j'ai pas, voilà, comme Nicolas, j'ai pas, il y a pas eu de, voilà, de ni de, j'ai pas lu avec les personnes en question le synopsis. Quand j'ai parlé de mon enquête, j'avais plutôt le sentiment, par ailleurs, que c'était pas, voilà, c'était pas ce qu'il les, enfin, en gros, leur réaction générale, c'était on te laisse faire, quoi. C'était par contre, voilà, c'est bien qu'il faut que tu passes du temps si tu veux comprendre. On t'a expliqué les choses, c'est ça qui est important à nos yeux, et voilà, c'est ça qu'on aimerait pouvoir transmettre. Du point de vue de ce qu'on vit, des difficultés, du point de vue des aspects également qui nous tiennent à cœur, etc.
Une dernière question, peut-être ?
Oui, elle concerne plutôt la portée politique de vos livres. Alors, vous enquêtez et écrivez en vous conformant à la rigueur de la démarche sociologique. Pour autant, vos livres apparaissent engagés. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les liens entre votre entreprise scientifique et la portée politique de votre travail ? Et plus généralement, pouvez-vous nous dire comment vous pensez, dans votre travail, la relation entre sociologie d'un côté et débat public politique de l'autre ?
Tout à l'heure a été évoqué le mot de neutralité. Et je pense que la sociologie française pâtit depuis 60, voire 70 ans, d'une mauvaise traduction d'un mot de Max Weber, qui en allemand est Wertfreiheit. Wertfreiheit, ça a été traduit au début des années 60 par la neutralité axiologique, qui est une invention pure. En fait, Wertfreiheit, ça veut dire non-imposition de valeur. Ce qui est complètement différent. Enfin, ça veut dire. C'est une traduction possible, parce que les traductions entre allemand et français sont très compliquées. Et j'imagine dans le sens inverse. Donc, il y a un livre qui a été écrit, notamment sur cette question d'Isabelle Kalinowski, il y a quelques années. Et ce que je veux dire par là, en faisant ce détour, c'est que la neutralité axiologique, ça donne à croire qu'il y a une position de neutre qui est possible. Mais la neutralité, ça n'existe pas. La politique, en politique, le ni droite ni gauche, on sait que ça n'existe pas. On l'a bien vu. Nous sommes tous engagés dans la société. Nous sommes tous, j'ai dit plusieurs fois que nous étions des intellectuels, voire des bourgeois, etc. Que la plupart d'entre nous sommes de gauche. Quand on pose des questions, quand on est dans les discussions ou quand on pose des questions sur le vote. Donc il ne s'agit pas de faire contre ça. Par contre, je n'ai jamais été un militant. Et j'ai découvert de l'intérieur ce que c'était que le militantisme pendant cette enquête. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, c'est le grand apprentissage que j'ai eu. J'ai vu des militants faire. J'ai vu ce que c'était que d'aider concrètement les autres dans leur conflit au boulot, etc. Voilà, de comment on organisait une manif. Voilà. Je ne connaissais pas ça. Je ne suis pas militant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sociologue et militant. Hein. C'est pas... Mais moi, je ne sais pas faire. Je pense que c'est très dur. Et moi, je ne sais pas faire. Donc, tout ça pour dire que le travail scientifique, quel qu'il soit, et je pense, quelles que soient les sciences que l'on pratique, est forcément politique. Nous sommes tous engagés dans la société. Après, il faut avoir une rigueur, et qui passe, quand on est ethnographe, par une non-imposition de valeur. C'est la non-imposition de valeur que l'on a, que l'on a comme rigueur dans nos entretiens, quand on les fait. Par exemple, une des grandes erreurs de base, c'est de poser à l'enquêté qu'on a devant soi une question qu'on se pose en tant que sociologue. Non. Ces questions, il faut les garder pour soi. Il faut entrer dans l'empathie et essayer de comprendre le milieu de la personne, dans quel monde la personne vit, pour la faire parler de son monde. Voilà. Donc, la question de la politisation, voilà. Après, il y a des ouvrages de sociologues qui sont explicitement politiques au sens militant du terme. Ça n'est pas ma démarche et je ne, c'est pas comme ça que j'essaie de former mes étudiants.
Vous remarquerez qu'on a fait un gros travail quand on a élaboré les questions. On n'a pas dit neutralité sociologique, on a dit rigueur de la démarche sociologique. C'est pas ce qu'on a dit.
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, ce que disait Nicolas sur la dimension située, enfin politique de ces enquêtes, elle est nécessairement là, et en particulier sur ce type d'objet, quoi, sur la question des inégalités, des classes sociales. Donc voilà, ça n'enlève rien effectivement à cette rigueur et à cette comment dire, à ce qui fait la force aussi de cette approche, de l'approche sociologique, c'est à savoir d'essayer de comprendre comment les gens, les personnes dont on parle vivent, à partir de quel schéma de perception, quels sont dans quel monde elles vivent. Donc là, sur une situation comme celle-ci, où où ça n'a pas été constitué comme problème public, où c'est symptomatique d'une crise qui est quand même assez inédite en France aujourd'hui, la crise du logement en termes de personnes concernées. Il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue, expulsées, en attente d'un logement social, etc. Enfin, donc c'est de fait, oui, ça situe politiquement du coup l'objet, enfin, la question. Mais derrière, voilà, il y a ce travail de longue haleine qui consiste à essayer de, non pas d'imposer ces catégories de perception et de jugement, mais d'essayer de rendre compte avec les outils de la sociologie, des trajectoires, des processus individuels, collectifs, qui ont conduit au développement de telle ou telle forme, la manière dont ces personnes s'organisent pour lutter individuellement, collectivement, contre les difficultés, pour accéder à des formes d'autonomie potentiellement aussi symbolique, etc. Voilà, je dirais que c'est... Mais je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas, à savoir que d'emblée... L'objet en tant que tel reste de part en part un objet politique, mais c'est... Et tant mieux.
Merci pour vos réponses.
Eh bien, merci à tous les deux, Arman et Anatole, et surtout à...
Merci beaucoup à vous.
Oui. Voilà, Gaspard, Lyon et Nicolas Renaï. En fait, il faudra insister encore, mais je crois que ça s'est perçu, ça s'est senti. C'est deux livres formidables. Hein, formidables, c'est à la fois la vie des étudiants et des collègues que nous sommes, mais vraiment, on apprend des choses sur des réalités dont vous avez rappelé l'un et l'autre, hein, qu'elles sont peu visibles. Très mal connu en l'occurrence sur le livre qui est le vôtre, Gaspard, en matière de camping résidentiel. Donc je vous remercie vraiment. Merci à Libre et Moula. Et puis il est temps de se saluer. Donc on vous applaudit tout à fait chaudement.
Merci à vous.
Merci beaucoup.